Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'occasion sur Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux un livre d'Émile Müller. Alors, Émile Müller n'est pas périgordais, mais il est né à Vernaison, près de Lyon, le 31 juin 1826, et il est mort à Paris en novembre 1913. Alors, il est l'auteur de près d'une centaine d'ouvrages, c'est un littérateur, homme de lettres, dessinateur d'étoffes, photographe, bibliothécaire à l'Arsenal à Paris, et a écrit sous le pseudonyme de Oncle Anselme pour des périodiques dédiés à la jeune génération, aux jeunes filles, je crois qu'il était marqué. En quelque part, il sera rédacteur en chef de La Mosaïque, le musée du famille et le journal de la jeunesse. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre qui est assez épais et qui était, alors là, je le précise, un prix municipal de la ville de Paris. Et où il n'y a pas de date et la petite affichette qui donnait le nom de la personne a disparu. Voilà. Alors donc il y a un dessinateur qui est Paul Dominique Philippe Otto. Il est né à Paris en janvier 1846 et il est mort dans la même ville en juin 1923. Alors c'est un peintre et illustrateur français. Après avoir fréquenté le collège Henri IV, il étudie à l'école des Beaux-Arts de Paris, s'intéresser à la peinture et puis il va faire le panorama de la défense du fort d'Issy. Tableau encore appelé Défense de Paris. Alors dans les années 1870, il réalise des illustrations pour différents auteurs, notamment François Guizot, Alphonse Daudet et Jules Verne. Alors, il y a un graveur hein, pour pouvoir refaire tous ces dessins. Ce dessinateur, c'est Charles Laplante. Il est né en septembre 1837 à Sèvres et il est mort le 16 juin 1903 à Paris dans le 17e. C'est un graveur sur bois, illustrateur français, un des principaux interprètes de Gustave Doré et des illustrateurs des éditions Hetzel et Hachette. Il interprète des scènes de Philippe Otto, comme on vient de dire, par exemple, pour des livres d'Alphonse Daudet, d'Hermann Chatrian, mais aussi d'Émile Bayard. Voilà, alors dans ce livre, il y a une introduction donc dans ce livre qui s'intitule « Morale en action par l'histoire » et qui a, je crois, 22 chapitres qui ont tous un nom. Alors, « La morale en histoire par l'histoire », il y a donc une introduction qui est un peu la genèse de ce livre. Voilà. Alors, voilà l'introduction avec un petit mot de Plutarque. « Les hommes ne s'adoucissent-ils pas ?» quand on leur raconte des traits de modération et de douceur. Et c'est signé Plutarque. Alors voilà donc cette morale. Ses anciens condisciples, longtemps dispersés par les luttes ou les exigences de la vie, s'est heureusement retrouvé pour toute une saison d'été dans un des plus jolis villages des environs de Paris. Mais au lieu de se réunir une fois par semaine chez l'un ou l'autre d'entre eux. Une cordiale réunion avait lieu depuis quelque temps, quand les liens de parenté et de voisinage qui munissaient à l'un de ceux qui les composent me valurent d'être amis. Je trouvais là un respectable ecclésiastique, l'héritier d'un grand nom, qui n'est riche à su faire de sa fortune, le plus intelligent comme le plus libéral usage. Un officier supérieur en retraite, un artiste qui fut plus d'une fois un des princes du salon, un savant, un historien qui a soit enrichi de ses portraits, mémoires, les recueils académiques, enfin un ancien artisan dont l'industrie a fait un rentier. Le jour où une véritable faveur me fit admettre dans ce cercle intime, cette question il fut soulevée de savoir lequel des sentiments humains revenait l'honneur d'avoir fourni à l'histoire la plus grande somme d'exemples dignes d'être admirés et suivis. Et après une discussion aussi animée que courtoise qui laissait la résolution indécise, nos vieux amis se dirent qu'un tel sujet valait un sérieux examen. Pourquoi ? Proposa le colonel, chez qui la réunion avait lieu ce jour-là, ne ferions-nous pas à la solution de ce problème moral l'objet particulier de nos entretiens hebdomadaires. Pour ma part, je crois qu'en faisant appel à mes souvenirs personnels et à ceux qui m'ont laissé mes lectures de prédilection, j'arriverai à produire un ensemble de témoignages qui pourraient être essentiellement empruntés au monde militaire, ne laisserait pas d'être significatif. Moi, dit le descendant des anciens preux, j'ai assez souvent fouillé les chroniques de nos vieilles familles pour pouvoir y trouver aussi un notable butin. L'annale de la science et de l'histoire, dit le savant, me fournirait, j'imagine, une notable moisson. Les annales des arts, donc dit l'artiste, Dieu merci, ajoute à l'artisan, l'histoire et l'industrie peut aussi entrer en lice. Après la parole à son tour, je me chargerai donc plus particulièrement, dit-il, si vous le voulez bien, de la partie qui relève de la morale, de la philosophie et de la religion. J'aurais probablement aussi à ajouter comme en tête chacun de vos chapitres quelques maximes et quelques pensées empruntées aux grands écrivains de tous les temps, qui seront comme un avant-propos des faits qu'elles précéderont. Les matières que je me réserve, confine à tout, je n'ai pas besoin de vous les démontrer. Accordez, fit-on en cœur. Merci, dit le bon abbé. Moi, messieurs, dis-je, me mange, serai, si vous voulez bien le permettre, greffier de ce tribunal privé, le secrétaire et, au besoin, le sténographe de tous vos entretiens. Je m'engage, et dès les finis, à mettre sous vos yeux une sorte de procès-verbal des cahiers divisés par chapitre. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a 22 dans le livre, qui vous aideront peut-être à son jugement définitif. Je n'ajouterai à vos matériaux que cette partie des faits connus qui sont le bagage classique de toutes les morales en action et qui sont néanmoins le fond nécessaire à toute œuvre de ce genre. Il ne faut pas oublier que la morale en action par l'histoire s'adresse à un public jeune, sinon enfant, qui a tout à apprendre, ce que ce tout est nouveau pour qui ne sait rien. Ma proposition fut acceptée. La cause fut longuement méthodiquement entendue, mais quand il fallut rendre l'entente, les opinions se trouvèrent singulièrement divisées. On se sépara, même sans conclure, sinon à ceci que le cœur humain, injustement frappé d'odieuses suspicions par les statistiques, les sceptiques et les misanthropes, n'est pas sans pouvoir arguer de bons et nobles titres. Ce sont ces titres, c'est-à-dire les annales du cœur humain, à moral en action, appuyées sur l'histoire, que nous offrirons successivement à nos lecteurs. C'est la réponse des faits ou des paroles mémorables qui ont valeur de fait à ceux qui calomnient la nature humaine. Pouvait-on mieux ou mal juger ? Sur la minute du procès, chacun pourra se prononcer à son tour. Alors on va voir un peu les sujets. Il y a quelques périgordins, évidemment, dans ce livre. Et puis, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il y a en frontispice, la morale en action par l'histoire, une jeune femme qui est en train de graver des noms dans le marbre à ses jeunes élèves. Et les filles d'un côté, les garçons de l'autre, bien entendu. Ce livre a été écrit sans date, mais à la fin du XIXe siècle. Alors, on va retrouver bien sûr Bayard, François de Sales, Catinat, mais aussi Fénelon, Turenne et Belzunce. Voilà. Donc, on va prendre le premier chapitre de ce livre qui nous parle de Doménil. Voilà ce que nous dit ce court chapitre. En 1815, Doménil, gouverneur de la citadelle de Vincennes, défendit cette place comme il l'avait défendue l'année précédente contre les troupes étrangères coalisées. Le général prussien Blücher lui écrivait pour le sommet de se rendre, lui offrant 1 500 000 francs. Doménil répondit au porteur de la lettre, « Allez dire à votre général que je garde sa lettre et la place. Cette dernière pour la conserver au pays qui me l'a confiée, la lettre pour la donner en dot à mes enfants. » Vous pouvez ajouter que malgré ma jambe de bois, je me sens assez de force pour défendre la citadelle ou pour faire sauter avec elle et votre général et son armée. Voilà, alors je crois que Doménil avait réuni dans le fort de Vincennes toutes les armes, tous les explosifs qu'il avait trouvés autour, qui avaient été laissés un peu par les armées. Voilà, alors, une petite précision, Doménil est né à Périgueux en 1776, il est mort du choléra en 1832 à Vincennes, où il est enterré. En plus de son tombeau, sur lequel est inscrit au général Doménil, la commune de Vincennes reconnaissante, une statue perpétue sa mémoire. Sa veuve, en 1851, sera nommée surintendante de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. En 1976, un timbre poste paraîtra à l'effigie de Doménil, évidemment, et le musée du Périgord consacrera une exposition. La maquette de l'affiche est due à Maurice Halbe. Voilà. Donc voilà pour Doménil, mais il y a un autre personnage qui est évoqué, c'est José Spinelli, qui trouvera la mort dans une ascension à Ballon. Alors voilà ce que nous dit José Spinelli. Alors ça, en réalité, son nom complet, c'est Joseph Stache. José Spinelli voit le jour à Montbazillac, en Dordogne bien évidemment, le 10 juillet 1845. Alors il sera élève de l'école centrale des arts et manufactures de Paris. Il est l'inventeur d'un vélocipède nautique, ancêtre du pédalo et d'un tapis roulant électrique. Et le 22 mars 1874, avec Théodore Civelle, il effectue son premier vol en ballon au bord de l'étoile polaire et atteint l'altitude de 7 300 mètres, ce qui est déjà pas mal. les 23-24 mars 1875, il participe au vol record d'une durée du zénith, 22h40, et effectue alors des observations de spectrométrie, d'hygrométrie et des mesures d'électricité et de la température atmosphérique. Voilà, alors il meurt asphyxié le 15 avril 1875 avec Théodore Civelle lors d'une nouvelle ascension au bord du zénith. Après 4 heures de vol, au cours de laquelle seul Gaston Tissandier survivra, le ballon s'écrase au lieu-dit Les Héros, près de Ciron, dans l'Indre. Alors la concession à perpétuité de l'endroit où est tombé le ballon est accordée gratuitement par arrêté préfectoral en date du 5 mai 1875. Une colonne de pierre perpétue cet accident aéronautique et la sépulture du père Lachaise, et qui est érigé par souscription nationale. Bon, il repose donc au Cespinelli avec l'aéronaute Henri Civelle, et ils se tiennent tous les deux sur le tombeau, ils se tiennent par la main, ils sont, comment je veux dire, ils gisent de dos. Voilà, et alors pour terminer, je préciserai qu'il y a une rue Crocé-Spinelli à Paris dans le 14e. Alors, bien sûr, cette ascension, ces décès auront une répercussion, et on retrouve dans, par exemple, la mosaïque, qu'on a déjà citée, la mosaïque, un article avec un dessin. Et il y aura également dans le journal des voyages et des aventures de la terre et de la mer également un article concernant ces décès avec également un dessin à la main. Voilà, donc il y aura d'autres choses, c'est-à-dire que le fait d'aller en ballon captif au panorama de Paris, vu de la nacelle du grand ballon captif à vapeur de la cour des Tuileries. Alors, il y a, comment je peux dire, alors, tous les jours, ascension captive, et puis il est dit sur l'affichette, il est offert à chaque voyageur une médaille commémorative de son ascension. Et le prix d'entrée dans l'enceinte est de 1 franc. Voilà, alors je n'ai pas fait la conversion pour savoir ce que ça donnait. Alors je veux dire que Historia consacrera également un article au drame du Zénith, et puis Brigitte et Gilles Leluc dans le bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord en 1996 lui consacrera également un article. Voilà, alors il y a tout cela, et j'ajouterai que, j'espère que je n'oublie rien, voilà, il y a un poème de Sully Prudhomme, il leur dédia un poème. Voilà, élevez-vous, montez sublime Argonaute, au-dessus de la neige et des blancheurs plus hautes. Il monte le ballon qui, pour nous, diminue, fait pour eux s'effacer des contours de la nuit. Il goûte du désert, l'horreur libératrice, mais si vite arrachée à la ferme nourrice, la chair tressaille en deux par un instinct d'enfance et rend l'osier qui craque et n'osant lâcher prise. Surtout, il lui faut de l'air, l'air bientôt lui fait faute, alors s'élève entre elle et son invisible hôte, le génie au destin de son argile unie, l'éternelle dispute, agonie incessante, la chair au sol vouée, implore la descente, l'esprit ailé lui crie sur somme infinie. Maître, dit-elle, assez mon angoisse macabre, plus haut lui répondit-il, et d'un long flot de sable, l'équipage allégé se rue au ciel profond. Ô maître, quel tourment, ta volonté m'inflige, je succombe plus haut, pitié, pitié, plus haut te dis-je, et le sable épanché provoque un nouveau bond. Un seul s'est réveillé de ce funèbre somme, et les deux autres, ô vous, n'est qu'un signe qu'on vous nomme, et qu'un plus proche de vous dise qui vous étiez, moi je salue en vous ce genre humain qui monte indomptable, vaincu des cimes qu'il affronte, roi d'un astre et pourtant jaloux des cieux entiers. Voilà. Donc c'était un poème de Sully Prudhomme suite donc à cette chute du ballon. Voilà, je me rappelle être allé à Ciré voir ce monument. Voilà, mais écoutez, je crois que mon temps est imparti, je l'ai même peut-être dépassé un tout petit peu, mais je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.